RTL.
On a tellement de choses à se dire.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Pierre Arditi et Michel Leeb ensemble, sur scène, pour la première fois. Ils jouent à partir du 18 janvier une pièce inédite de Philippe Claudel, Compromis. Sophie Orange les a rencontrés. Le duo de comédiens est visiblement déjà extrêmement complice et bien rodé. Parmi les nouveautés de la rentrée littéraire en janvier, À la ligne, premier roman de Joseph Pontus qui raconte son expérience d'ouvrier intérimaire. Un livre à la forme et au contenu étonnant, nous dira Bernard Lehu. 2019 marque les 150 ans de la mort d'Hector Berlioz. Charlotte Latour présente quelques-uns des nombreux albums, concerts et ouvrages consacrés au célèbre compositeur de la Symphonie Fantastique. Enfin, à la télévision ce soir, le téléfilm Un mensonge oublié sur France 3 et le retour du patron incognito sur M6, ce sont les choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est donc l'événement théâtral de ce début d'année. Pierre Arditi et Michel Leeb, ensemble, sur scène pour la première fois. Ils vont jouer à partir du 18 janvier, Compromis, un texte inédit signé de l'écrivain Philippe Claudel. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré les deux acteurs, que dis-je, ces deux monstres de la scène, pour quelques confidences, dans la joie et dans la bonne humeur.
Ah oui, c'est peu de le dire. Nous voilà dans le foyer du Théâtre des Nouveautés à Paris, avant une répétition. Pierre Arditi et Michel Leeb s'entendent comme larrons en foire, de vrais gamins. Ils se chambrent sans arrêt, un brin. Un cabot, il faut le dire, mais tellement drôle, il n'y a pas de temps mort et ça commence très très fort. On vous sent évidemment très complice.
Non, alors là, c'est faux, c'est une apparence.
Vous êtes de très bons acteurs, c'est pour ça.
Exactement.
Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là.
Détrompez-vous.
Comment et quand vos chemins se sont croisés dans vos immenses carrières?
Quand j'étais tout gamin, c'est-à-dire, enfin mes grands-parents allaient voir donc Pierre au théâtre et c'était assez émouvant. Et mes grands-parents m'ont transmis le goût du théâtre. Ils m'ont dit « Va donc voir un acteur merveilleux qui s'appelle Pierre Arditi, tu verras, il est prodigieux. » Et quand j'ai eu des très bonnes notes, quand j'étais petit, j'allais voir Pierre donc au théâtre. Oui. Et j'ai eu des très bonnes notes et je suis allé voir
Pierre. Quoi. On dirait que j'ai 96 ans et qu'il en a 22. C'est une plaisanterie. On a 2 ans de différence, donc quand il était très petit, il ne venait pas me voir au théâtre parce que je n'y jouais pas encore. Et quel con.
Et il le dit avec un
connard. Et on le laisse dévider. Et vous le laissez dévider,
ah bah oui, savoir si vous
aviez réagi. Allez voir.
Bon, en fait, parlons sérieusement, si c'est possible. Pierre fait partie des immenses acteurs français. Mais enfin, ça, c'est fatigant de le dire, mais en même temps, je suis obligé de le reconnaître. Malheureusement, c'est la vérité.
Alors, et ce duo vu de Pierre Arditi, vos grands-parents allaient voir Michel Leeb.
Les arrière-grands-parents allaient voir Michel Leeb et ils ont dit va voir ce jeune acteur qui est super. Enfin, non, je déconne. Non, je fais partie de ma vie depuis toujours, Michel, comme il fait partie de la vie de beaucoup de monde. J'ai un souvenir, entre autres, de lui au théâtre, où il avait joué une pièce qui s'appelait Amitié sincère, et j'ai été ébloui. En général, je l'ai vu, il était à foutre. Et là, très honnêtement, il était extraordinaire. Je déconne. Non, il était absolument formidable, mais vraiment génial.
Combien je te dois?
Alors, tu seras gentil de me faire mon virement habituel. Tu le fais sur la banque Rothschild, Lazard, BNP. C'est entendu.
Bon, je vous avais prévenu.
Alors, qu'en raconte cette pièce Compromis que vous avez lue? Vous l'avez dit, les deux acteurs sont encore en répétition. Hein.
Alors, Compromis, c'est un texte écrit par Philippe Claudel, l'écrivain auteur de plusieurs best-sellers. Je parle sous votre contrôle, Bernard Lehu, auteur notamment des Âmes grises, La petite fille de Monsieur Lynn ou Le rapport de Brodeck. Il aime
déjà
aussi le théâtre.
De théâtre hein,
exactement, c'est sa troisième pièce. C'est l'histoire de deux amis de 34 ans pour être précis, qui se retrouvent dans un appartement vide. Ils attendent l'acheteur et les voilà qu'ils se flattent, qu'ils se moquent et qu'ils finissent par s'envoyer les pires vacheries à la figure. Un duo, plutôt un duel, je dirais, qui finit en règlement de compte. Tout cela pour être sûr que l'appartement soit vendu. Cela s'annonce très drôle, caustique. L'amitié va-t-elle résister? C'est toute la question. Et c'est Michel Leeb qui raconte, non pas la fin de la pièce, mais comment le projet s'est monté avec Pierre Arditi.
C'est Philippe Claudel. Hein.
C'est Philippe Claudel qui m'a envoyé la pièce. J'ai tout de suite pensé à Pierre, parce que ça faisait des lustres qu'il était tout seul, qu'il était là, errant dans les rues, et je me suis dit, écoute, est-ce qu'éventuellement, tu es libre pour jouer avec moi? Il m'a dit, oui, bon voilà, on est ensemble maintenant, ça y est.
Et votre version, Pierre Arditi?
C'est consternant comme explication, c'est pathétique.
Pourquoi vous avez pensé tout de suite à Pierre Arditi?
Parce que le rôle, c'est un costume pour lui, il est magnifique, et bon voilà, quand tout de suite on imagine le personnage, après avoir lu la pièce, j'ai dit, voilà, il n'y a qu'un mec qui peut jouer ça, tout s'est fait très vite.
Pierre Arditi?
Je suis très touché que Michel ait pensé à moi. Puis ça va lui faire un bien fou de jouer avec un véritable acteur.
Oui, bon. Puis moi je me suis toujours dit que voilà, quand on joue avec un grand acteur, c'est comme au tennis. quand vous jouez avec Federer, moi j'ai joué avec Federer, quand je renvoyais la balle à Federer, j'avais l'impression d'être Nadal. Et là, quand je joue avec Pierre Arditi, j'ai l'impression d'être Michel Leb, ce qui est quand même très agréable.
Ce qui est quand même très effrayant. On se demande comment on va pouvoir tenir une année entière. On est des galopins, heureusement d'ailleurs.
Vous allez réussir à être fidèle au texte ou vous craignez le fou rire ou vous craignez le truc où ça va déraper?
On ne peut pas bouger là-dessus. Non, c'est pas possible. Non, c'est remarquablement écrit. On ne peut pas sortir, on ne peut pas improviser. C'est impossible. C'est pas une pantalonnade, c'est pas une pièce où on peut carrément effectivement improviser 2-3 secondes et faire des gags au public comme ça se fait dans certaines comédies. Ça non, c'est hors de question. Le texte, il est super écrit, c'est magnifique. On ne peut pas y toucher.
Pour apprendre le texte, c'est une mécanique. Vous l'apprenez en une semaine, 15 jours. Quels sont vos trucs à chacun, à l'un et à l'autre?
Moi, je me colle devant un mur blanc et puis j'apprends bêtement comme un robot sans aucune espèce d'intention.
Et vous, Michel Leb?
Moi j'ai une méthode assez originale, je crois que je suis le seul à faire comme ça.
J'apprends pas et j'improvise.
Non, j'enregistre la voix de mon partenaire, j'enregistre son texte et je laisse l'espace des réponses.
Je ne savais même pas qu'il avait enregistré ma voix.
Si, non, je n'enregistre pas ta voix.
Oui, tu enregistres mon texte.
Ton texte, et comme ça, et je le fais un peu à ta façon, donc je t'imite un petit peu.
Un peu à ma façon,
oui, je te ferai écouter quand on aura fini, parce que tu vas te marrer.
Oui, ça va. Oui,
tu vas être très étonné parce que comment je t'imite, enfin bon.
Alors, ces deux cabotins qui ont des voix exceptionnelles, ils nous font un très bon numéro de radio.
C'est pas fini.
Ensemble sur scène, on se dit que c'est un succès assuré.
Moi, je suis comme vous, je signe avec les deux mains, les deux pieds. La pièce se joue jusqu'en mai, relâche l'été prochain, puis retour sur scène à Paris à l'automne 2019, avant une tournée en région en 2020. Succès assuré, sauf que les deux acteurs, pour une fois sérieux, restent modestes et parlent du même voix, comme dans un couple, l'un finissant les phrases de l'autre.
On n'est jamais sûr de rien.
Il n'y a pas de recette pour rien.
Même après 40 ans, 50 ans de carrière.
Mais écoutez, pas du tout, ça n'existe pas. Si on arrive comme ça, les mains dans les poches, vous croyez? Non, mais on est
jamais de la vie.
Moi, j'ai toujours l'impression, et Pierre sûrement dira la même chose.
C'est la première fois.
C'est la première fois. Nous, il faut toujours tout remettre en question à chaque fois. Rien n'est acquis dans ce métier. Absolument. On n'est jamais arrivé. Voilà. C'est jamais arrivé. Voilà. Quand vous êtes attendu, pour être attendu, il faut être arrivé.
Elle est jolie, celle-là. Pierre Arditi fait semblant de dormir.
Non, je ne fais pas semblant, je me suis bien endormi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime aussi travailler depuis, c'est de temps en temps. Mais je peux faire ma sieste tranquille. Alors.
En revanche, s'arrêter, non, jamais, ni l'un ni l'autre.
S'arrêter au leader de faire ces métiers-là?
Oui,
mais vous savez que la retraite pour les acteurs, c'est la mort. Ça s'appelle la mort.
Et, oui.
Et vous n'avez pas peur que l'un fasse de l'ombre à l'autre et inversement?
Alors là, absolument pas. Parce que là, c'est impossible.
Non, c'est impossible.
C'est impossible.
L'un décide de faire de l'ombre à l'autre, il n'y a pas de pièce.
Exactement.
C'est très simple.
Impossible.
Ça, c'est pour les cons.
Ça, c'est impossible.
C'est-à-dire qu'un acteur qui se dit il faut absolument que je tire la couverture pour essayer de buter la gueule de l'autre est un imbécile.
Oui, absolument.
Voilà. On est jamais aussi bon que quand l'autre est meilleur que vous.
C'est terrible, on les écoutait avec plaisir. Non, je me disais qu'on pouvait mettre à l'envers votre phrase. C'est pour une fois sérieux, reste modeste, ou pour une fois modeste, reste sérieux. Parce que ce sont les angoisses du spectacle.
Exactement. Compromis, c'est donc au Théâtre de Nouveauté à partir du 18 janvier prochain à Paris. Pierre Arditi et Michel Leb au sommet de leur art. Mm-hmm. Entre deux soirs au théâtre, Michel Leb sera seul sur scène pour son one-man show sur ses 40 ans de carrière, histoire de ne pas s'ennuyer. Et de son côté, Pierre Arditi tournera cet été un film avec François Berléand sur l'amitié très proche qui unissait Georges Clemenceau et Claude Monet. Un film réalisé par Marine Delterme. Vous l'aurez compris, ces deux hommes ne s'arrêtent jamais.
Merci beaucoup. Et en tout cas, ne serait-ce que le projet de film, là, ça aussi, c'est intéressant. Oui. Dans un instant, nos audiences télévisées de la veille, en fait, qu'avons-nous regardé? Ce sera avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Tout de rouge vêtu et très appliqué comme d'habitude.
Mère Noël.
Voilà, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie sur nos programmes d'hier soir. Qu'est-ce qu'on a regardé?
Bonne soirée pour TF1 puisque près de 7 millions de téléspectateurs étaient là pour le 20h de TF1 Abdelah Une avec Édouard Philippe. C'est 2 millions de mieux que France 2 en face. Et puis Infidèle fait un bon démarrage. 5 500 000 téléspectateurs et 23% du public sur la Une.
Adaptation de Dr. Foster.
Absolument. Devant Insaisissable sur M6, 3 310 000, donc joli score. On sera pudique sur The Detail qui démarre mal sur la 2, 2 8 millions. Côté TNT, c'est C8 qui est en tête avec Balade entre les tombes, plus d'un million de téléspectateurs. Et puis alors, je voudrais quand même signaler à propos de fiction que c'est le démarrage aujourd'hui de tournage de nouvelle enquête du Capitaine Marlowe avec Corinne Maziero qui est gendarme pour 7 500 000 téléspectateurs. 1 million de plus avec le replay, c'est avec Joey Starr, c'est tourné près d'Agen. C'est normal que dans un polar, il y ait des pruneaux.
Voilà, en une de Télérama, je vous le rappelle, et tout cela fera plaisir lire à notre camarade Jade. Allez, on parle littérature avec Bernard Lehu. Parmi les nouveautés de ce début d'année en librairie, un premier roman qui sort du lot, m'avez-vous dit, cher Bernard. Son titre, c'est À la ligne et l'auteur s'appelle Joseph Pontus.
Oui, voici l'OLNI du moment, l'objet littéraire non identifié. Un ouvrage comme je n'en avais encore jamais lu. Vous l'ouvrez, vous pensez qu'il s'agit de poésie avec des phrases qui vont sans cesse à la ligne, comme des vers, un texte en strophe, ne manque que les rimes. Le contenu est encore plus étonnant. Joseph Pontus, après des études de littérature et avoir été éducateur en banlieue parisienne, est devenu ouvrier intérimaire dans des conserveries de poissons et un abattoir, et c'est cette expérience qu'il raconte. Mais pourquoi s'est-il retrouvé là ?
Par amour, j'ai quitté la région parisienne pour me marier à une Bretonne. Et j'ai pas retrouvé de travail dans mon secteur d'activité, à savoir le travail social. Et il fallait ramener des sous, tout simplement. Et donc j'ai poussé la porte de l'intérim et j'ai travaillé dans les usines qui embauchaient dans le coin. Et je me suis retrouvé dans l'usine et ça a été un tel choc, une découverte absolue, que j'ai commencé à consigner un petit peu ce que je vivais au quotidien. Et il s'agissait d'être au plus juste dans ce reflet d'une condition déjà ouvrière et ensuite intérimaire qui encore plus la lie des ouvriers que l'ouvrier en tant que tel. Pour moi, c'était vital d'écrire. C'était une nécessité, vraiment, autant que de manger un kilo de viande par jour pour tenir physiquement, et 2 kilos de patates. Quoi.
Et quant à la forme si particulière, cette écriture à la ligne, hypnotique, à la longue, elle est en parfaite osmose avec ce rythme incessant, frénétique du travail en usine, comme l'explique Joseph Pontus.
J'ai cherché à rendre le rythme de mes pensées en travaillant sur des lignes de production. Parce que quand on travaille sur une ligne de production, on n'a pas le temps. Tout va tellement vite, les gestes doivent être rapides, automatiques, efficaces, et les pensées défilent au même rythme. On n'a pas le temps de faire des grandes phrases quand on parle aux collègues, quand on a le temps de parler, ou alors même dans sa tête. C'est un flot de pensées qui s'entremêle, et c'est ce que j'ai essayé de décrire et de sur cette forme particulière. En fait, c'est l'usine qui a imposé sa forme, plus que moi qui ai choisi la forme.
Alors, en quoi un livre comme celui-ci trouve sa place, finalement, dans notre rubrique littéraire ?
Eh bien, grâce à l'acuité du regard et la qualité d'écriture de Joseph Pontus, trier ou charrier des tonnes de crevettes et de bulots, trimballer des carcasses de viande, le bruit infernal des lignes de production, le froid ou la chaleur, le corps qui souffre, la fatigue abrutissante, tout cela devient, sous la plume de l'auteur, une odyssée, une ode au monde ouvrier. Joseph Pontus, l'Ulysse de l'intérim, puise dans son bagage culturel la force d'affronter les cadences infernales. Le texte est nourri de références littéraires ou musicales. Et à l'usine, nous raconte-t-il notamment, on résiste en chantant.
Oui, on chante énormément. Chacun chante dans sa tête. Mmh. Mais il y a beaucoup d'ouvriers qui chantent à tue-tête. De toute façon, il y a un tel bruit avec les machines que puis un chef pourra jamais reprocher qu'on chante. Sauf à des moments très particuliers. Et là, c'est une phrase les plus dures et les plus belles que j'ai entendues d'une ouvrière qui était justement dépassée par le temps et qui disait à ses collègues « Aujourd'hui, c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. »
Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage.
Charles Trenet, sans qui je n'aurais pas tenu, écrit Pontus. Il écrit des pages vraiment très belles sur Trenet. Et il n'aurait pas tenu non plus, notre auteur, sans l'amour des siens. Sa femme, son chien, Poc Poc, qui en breton, je crois, veut dire bisou. Enfin, on demandera ça à Steven Bellery. Et sa mère, surtout. Il leur consacre à tous les trois des pages admirables d'émotions contenues.
Ma maman aussi, qui est une très fidèle auditrice d'RTL. À chaque fois qu'on va la voir, c'est RTL du matin au soir à fond les ballons. Oui, c'est un livre pour ma maman, dans le sens où j'ai appris au moment de l'écriture qu'elle était atteinte d'un cancer. Avec beaucoup de chance, là, le traitement est terminé avec des super bons résultats.
Mais vous évoquez ce combat qu'elle mène contre la maladie.
Ouais.
Pourquoi l'avoir inséré dans ce livre ?
Parce que c'est un livre de lutte. Tout le monde lutte dans ce bouquin. On lutte contre la cadence, on lutte contre la maladie. Tout le monde est en lutte contre quelque chose.
Tout le monde ne fait au fond que de trimballer ses carcasses.
Ouais, au sens propre et au sens figuré, oui.
À la ligne. Eh bien, c'est encore Joseph Pontus qui, dans son livre, résume le mieux son ambition d'une phrase, se donner pour tâche de raconter ce qui ne le mérite pas, le travail dans sa plus banale nudité. Eh bien, de ce quotidien des forçats de l'intérim, il réussit en effet à faire une œuvre littéraire majeure, vraiment là, pour moi la première révélation de 2019. Ce dont ne semble pas convaincu, par contre, son employeur.
Je vais envoyer un exemplaire du livre au grand patron de mon abattoir et j'ai appris 15 jours plus tard que mon contrat n'était pas renouvelé. Donc je pense avoir reçu un accusé de réception indiquant que l'industrie agroalimentaire n'était peut-être pas prête pour la littérature contemporaine. Donc voilà.
En plus, voilà. Il est follement drôle. Hein.
Oui, mais alors voilà, c'est aussi une des qualités du livre, c'est qu'il arrive à glisser de l'humour dans tout ce récit. Eh bien, adieu les abattoirs, tant mieux, et on souhaite une longue vie, surtout, d'écrivain à Joseph Pontus. À la ligne est édité par la Table Ronde.
Et nous saluons avec affection Madame Pontus-Mère, qui est donc une auditrice.
Oui,
avec grand plaisir.
Du matin au soir.
Ah, c'est parfait. Voilà, toutes nos pensées sont avec elle. Alors, place maintenant au compositeur de l'année, puisque 2019 marque les 150 ans de la mort du plus grand compositeur romantique français. Hector Berlioz. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Vous nous présentez ce matin des albums, une série de concerts et un livre consacré aux musiciens isérois.
Oui, le programme est dense à l'image de l'œuvre de Berlioz. Berlioz,
allez, vas-y, Berlioz.
Né en 1803, un peu de respect quand même.
Pardonnez-moi.
Oh, les 150 ans. Oui, Hector Berlioz, bien. Donc, on y retourne. Né en 1803 à la Côte-Saint-André, dans le Dauphiné, oui. Son père médecin avait aussi deux fermes, dont Berlioz a hérité, qui lui ont d'ailleurs rapporté plus que sa musique. Il grandit donc à la campagne, il apprend la flûte et la guitare, quand les autres grands compositeurs commencent souvent par le piano. Poussé par son père, il part à Paris pour apprendre la médecine, mais il sèche les cours et va en douce au concert et à l'opéra. Boulimique de musique, Berlioz est un autodidacte de génie et le chef François-Xavier Roth lui rend aujourd'hui hommage avec un album qui sort dans quelques jours.
C'était un compositeur qui écrivait beaucoup sur la musique de son temps, sur ce qu'il estimait être approprié ou non, un petit peu comme au XXe siècle on a eu Pierre Boulez en France, c'est-à-dire un musicien qui est beaucoup plus qu'un musicien mais qui est une sorte d'organisateur ou d'utopiste de la vie musicale. Et très certainement il a irrité beaucoup de ses contemporains Berlioz, mais il reste un musicien absolument incroyable, je trouve, toujours moderne aujourd'hui, qui questionne la place de la musique dans notre société. La musique peut être beaucoup plus qu'un simple art de la décoration de notre vie, mais peut vraiment changer notre vie.
François-Xavier Roth, 47 ans, grand amoureux de Berlioz. Sur son nouvel album, il dirige son ensemble Les Siècles, créé il y a 15 ans. Il y joue Harold en Italie avec l'altiste allemande Tabea Zimmermann. Une pièce commandée à Berlioz par l'immense violoniste Niccolo Paganini. Il souhaitait montrer sa virtuosité à l'alto. Harold en Italie est une innovation pour l'époque, une œuvre de forme hybride.
Il écrit quelque chose de totalement différent d'un concerto qu'on connaissait à l'époque. Donc c'est une sorte de poème symphonique en plusieurs parties, avec un alto principal qui est presque comme un acteur musical. C'est-à-dire Berlioz le situe dans la salle, il donne des indications de mise en scène, comment il va bouger, enfin un tas de choses qui sont absolument nouvelles et presque provocantes à l'époque où il écrit ça.
François-Xavier Roth et Les Siècles en concert Berlioz ce jeudi 10 au Théâtre Impérial de Compiègne et vendredi 11 à la Philharmonie de Paris dans le cadre d'un week-end spécial et puis de Toulouse à Strasbourg en passant par Lyon. Tous les orchestres français, toutes les grandes salles prévoient leur propre hommage.
Charlotte, il y a aussi des événements européens qui sont prévus.
Oui, un petit peu comme François-Xavier Roth qui joue à Berlin, à Londres ou encore à Pékin. Berlioz lui-même aimait diriger à l'étranger. Il était même plus connu hors de nos frontières que chez nous. Dans les salons parisiens, on goûtait peu ses innovations musicales, ses critiques acerbes, parce qu'il avait la dent dure quand même, hein, envers les autres musiciens de l'époque, et puis probablement aussi son petit accent de la campagne. Mais en tout cas, à l'étranger, rien de tout cela. Vous allez être surpris par les événements auxquels il a participé. Détail avec Bruno Messina, en charge de l'année Berlioz, et depuis 10 ans à la tête du festival qui se tient tous les mois d'août dans la ville natale du compositeur.
Berlioz, c'est quelqu'un qui a inauguré un pont sur le Rhin entre Strasbourg et Kelne, par exemple, qui a fait un concert, mais qui a fait un discours aussi à cette occasion où il a dit « Là où la musique finit, la barbarie commence ». C'est prophétique, c'est très beau. Il avait la capacité comme ça d'inventer. On ira à Bruxelles pour faire un concert Berlioz à Bruxelles avec Hervé Niquet, le concert spirituel, parce que Berlioz a inauguré aussi la ligne Paris-Bruxelles avec un concert à la gare de Lille où il avait écrit le chant des chemins de fer parce que c'était un hymne au progrès, aux relations dans l'Europe. C'est un Européen, Berlioz. Et sur notre site Berlioz 2019, on peut trouver à l'échelle européenne les grands événements berlioziens.
À voir et à entendre à partir de la semaine prochaine à l'Opéra de Paris. Bruno Messina, pour information, est l'auteur d'un petit livre passionnant, très accessible sur la vie et l'œuvre de Berlioz. Il est paru chez Actes Sud. Et puis 2019 rend décidément un bien bel hommage aux musiciens. Il y a aussi une sortie inédite, l'intégrale des œuvres de Berlioz chez Warner. 27 CD avec des grands noms, Alania, José Van Damme, Anne-Sophie Van Otter, Leonard Bernstein ou encore Michel Plasson. Vous y trouverez des premières mondiales et puis aussi une archive, le tout premier enregistrement de la Symphonie Fantastique sous la direction de René Baton. Il date de 1923, tout de même sortie prévue le 1er février.
Une toute dernière question, Berlioz au Panthéon, c'est une info ou une intox?
Alors écoutez, en 69, Malraux en parlait déjà à De Gaulle, donc le dossier est à l'étude depuis longtemps. La demande en tout cas a de nouveau été faite, reste à l'Élysée de décider. Bon, ces temps-ci, l'Élysée a d'autres dossiers en cours, mais 2019 pourrait quand même être l'année où on le verrait arriver au Panthéon, en effet.
Merci Charlotte Latour, dans un instant la télévision, et Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Isabelle Morini-Bosque, ce soir à la télévision, deux inédits sur fond de racisme.
Exactement. Voilà. Sur la 3, un mensonge oublié, une enquête policière cohérente pour trouver l'assassin d'une jeune franco-réunionnaise qui était sur le point de se marier avec le fils unique d'une trop riche famille de la Creuse. L'enquête fera revenir à la surface, outre le corps de la victime, un scandale des années 70, l'adoption d'enfants réunionnais par des familles françaises manquant de bras. C'est une histoire vraie. Ça, c'est donc sur la 3 avec un formidable Antoine Duléry. Et en face sur TF1, on a SWAT, Special Weapons and Tactics, une sorte de raid californien inspiré d'une fiction de 1975 qui a aussi donné lieu à deux films pas mémorables en 2003 et 2011. Si TF1 croit à cette nouvelle mouture, c'est parce que le héros en est chez Marmour. Vous savez, 48 ans, ancien d'esprit criminel, beau gosse de face comme de fesses.
Regard totalement inexpressif.
Totalement. Et avec vide. Un très beau crâne. Voilà. Il incarne Hondo, un afro-américain nommé à la tête de la police pour améliorer les rapports entre sa communauté et les autorités. Dans cet épisode, son pote Buck est mis sur la touche et lui envoie Buck. Un bleu casse-cou, qu'il retrouve en salle de gym.
Buck, tu le connais depuis longtemps?
Ouais, depuis tout gosse.
Ah ouais? T'étais dans l'équipe de Minim qui l'entraîne?
Non, il connaît ma mère.
C'est-à-dire, ils sont ensemble ou...
Il l'a foutu en tôle.
Et il y est toujours?
Ouais. Question suivante.
Voilà. C'est parfois aussi empesé que les uniformes, comme vous le dites, il n'a pas le regard le plus farouche.
Non.
Mais bon, ça se laisse voir.
Bon, ben voilà. Alors, votre programme du jour, c'est Patron Incognito sur M6, c'est une série qu'on aime beaucoup, vous et moi.
Oui, une série que la critique boude, mais que le public adoube. Et moi aussi, j'aime beaucoup ce programme dans lequel un patron se grime pour redécouvrir son entreprise et le quotidien de ceux qui la font vivre en effectuant le travail de divers employés. Pour la première fois, quatre grands patrons connus et reconnus ont joué le jeu, ceux de Léonidas, Franprix, Rentecar et Léon de Bruxelles.
C'est drôle.
On commence ce soir par Laurent Gillard, patron des Lions de Bruxelles, 80 restaurants, 1500 collaborateurs, 10 tonnes de moules fraîches par jour et 3600 kilos de pommes de terre. Voilà. Le prétexte, un stage de formation pour devenir directeur adjoint du resto d'Evreux et la présence de caméras se justifie par un pseudo-reportage d'M6 sur le succès de l'enseigne. Laurent Gillard, rebaptisé Robert Langlois, joue les naïfs.
C'est quoi l'équipe de tournage hein?
C'est simple, il y a l'émission M6 qui va faire un reportage sur nous là ce soir, notre réussite. Voilà.
Ça vous met la pression, non?
Ouais, un peu. Ouais. On nous a proposé une stratégie. C'est de dire qu'on n'était pas bien payé pour avoir une augmentation, mais en définitive, on n'est pas si mal payé que ça.
Voilà. Il a donc accepté de se mouiller, si j'ose dire, pour un spécialiste du fruit de mer.
J'ai facilement accepté parce que je trouvais que c'était pour moi une bonne occasion d'avoir une immersion à travers les métiers que je défends dans la restauration de cuisinier et de serveur, de découvrir l'envers du décor, voir comment ils vivaient, on va dire, ce qu'on leur demandait au niveau du siège. C'était, voilà, pour moi, l'occasion de redécouvrir ce métier. Là, de voir un peu leurs difficultés, de voir comment je pouvais demain être utile dans la façon de faire évoluer leurs conditions de travail, en équipe également, au service du client. Donc voilà, c'était pour moi avant tout quelque chose qui pouvait valoriser en tout cas le métier et de valoriser l'interne à travers la propre découverte que je ferai.
Alors le déguisement pour lui, c'était comment dire, barbant?
Bah moi, au départ, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est de me faire pousser la barbe, parce qu'effectivement, la production m'a demandé de me faire pousser la barbe. Dans un métier au contact client où je souhaite idéalement qu'il n'y ait pas de barbe, que la barbe soit en tout cas au minimum bien taillée. Et donc, à titre personnel, je me refusais de me faire pousser la barbe. Donc, comment j'allais créer un alibi, les conditions de me laisser pousser la barbe. Donc, j'ai évoqué un problème de peau et un voyage au Québec pendant une dizaine de jours, semi-professionnel, pour créer les conditions d'un décalage horaire qui faisait que je ne serais pas trop embêté. Et voilà.
Et il l'avoue, il s'est beaucoup amusé.
Et ben voilà. L'atterrissage est compliqué. Hein. Moi, j'ai terminé le tournage un vendredi soir. Je n'avais pas trop du week-end pour m'en remettre. Et je dirais même qu'il m'a fallu 2-3 jours pour remettre un petit peu les pieds sur terre, réendosser son rôle de patron. Voilà, donc 3-4 jours avant de s'en remettre. Hein.
Quand on parle de cette émission, on dit « Ah non, mais attends, d'abord, c'est un bon moyen de contrôler ses employés. Et ensuite, évidemment, c'est un moyen de faire de la publicité pour l'entreprise. »
Oui, ben, patron incognito. Moi, je ne connaissais pas le principe de l'émission avant de le faire. Je croyais au début que c'était « Vie ma vie ». C'est ma femme qui m'a dit « Non, c'est une émission sympa et tout ça. » En découvrant justement un replay sur quelqu'un qui l'avait fait dans la restauration. Je me suis rapproché du dirigeant en question. Il m'a tout de suite dit, fais-le, tu verras, c'est une super expérience, c'est super bienveillant, ça va être bien pour toi, ça va être bien pour tes salariés. Du coup, voilà. Mais au départ, je ne connaissais pas le principe de l'émission. Voilà.
Voilà. Et les trois autres patrons sont très drôles. Moi, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle saison.
M6, 20h50, et je vous rappelle 10 tonnes de moules fraîches par jour.
Entre autres.
Chez
Monde
de Bruxelles. C'est partie des choses qui me laissent pantois. Dans quelques instants, Julien Courbet. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet.
Comment allez-vous?
Formidable, j'ai entendu votre promo ce matin, c'était un petit peu sexy. Avec.
C'est Maître Félonneau en ce moment, je ne sais pas, c'est la Félonneau 2019, croyez-moi, elle était moustille.
Un petit peu chaudasse.
Elle a bien belle chaussure en tout cas.
Elle est toujours tirée à quatre épingles, elle est magnifique.
Ça, je ne sais pas si c'est à quatre épingles, mais en tout cas, elle est là ce matin et elle va de toute façon nous donner des tas de conseils.
Bon, alors c'est l'essentiel.
Voilà, eh bien, je crois qu'on ne fera pas mieux, je vais donc vous souhaiter une bonne journée.
On vous embrasse, on vous souhaite une excellente émission.
Allez, c'est parti.
Et surtout, on vous écoute.